Notre rendez-vous mensuel avec l'association Braise Europe Finistère, qui rapproche l'Europe des Finistériennes et des Finistériens. Et encore plus aujourd'hui, car Maëlle Cordeau, le président, a interviewé une fonctionnaire européenne, Isabelle Coustet, à propos d'une démarche de consultation à l'échelle de l'Europe pour faire évoluer l'Union et son fonctionnement. On peut imaginer de nouveaux traités, voire une constitution européenne, mais l'idéal serait de recueillir nos avis, vos avis, avant.
Je dirige le bureau du Parlement européen en France. C'est un bureau de liaison avec les institutions nationales, mais aussi avec la société civile, avec les organisations, et on travaille avec surtout avec, enfin, avec tous les députés européens, mais surtout les députés européens français, qui sont 79. Notre rôle, ça n'est pas forcément de communiquer sur tout ce que fait l'Union européenne, mais plutôt de faire connaître le Parlement européen comme un lieu de discussion et de décision aussi sur les politiques européennes. Vraiment, ce qu'on voudrait faire comprendre aux citoyens français, c'est qu'il existe un Parlement européen qui a plus de pouvoir que le Parlement national dans le système national, que beaucoup de choses se décident au Parlement européen, qu'elles se décident de façon démocratique, avec un débat entre 7 groupes politiques différents, qu'il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a pas de ligne qui vote l'ensemble des textes qui seraient déposés par la Commission européenne, et que au Parlement européen, le temps de la discussion, le temps du débat et du vote peut faire changer beaucoup de choses sur les politiques de l'Union européenne. Donc en fait, l'objectif principal de notre bureau, on va dire, en France, c'est de politiser les questions européennes, mais au sens de leur contenu, pas au sens d'un débat pour ou contre l'Union européenne, mais plutôt que doit faire l'Union européenne sur tel sujet, quelles décisions à prendre et quel est l'enjeu du débat sur telle ou telle politique.
Et justement, dans ce cadre, les trois institutions majeures de l'Union européenne, dont le Parlement européen, donc avec la Commission et le Conseil, se sont engagées dans une nouvelle démarche. Donc c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Quels en sont les enjeux principaux?
Oui, alors c'est vrai que c'est une opportunité sans précédent. Ça fait peut-être 10 ans qu'on n'a pas modifié les traités fondateurs, le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a plusieurs méthodes pour modifier le fonctionnement de l'Union européenne qui ont plus ou moins échoué. C'est pas les traités fondateurs, ce ne sont pas seulement des traités internationaux, c'est beaucoup plus que ça. C'est presque comme une constitution. On se rappelle du débat sur la constitution européenne. Et après la crise sur le Covid, on s'est aperçu que dans certains domaines dans lesquels l'Union européenne n'avait pas de compétences, il fallait agir pourtant au niveau européen et que là, on était quand même démunis de moyens d'action rapides. Alors, c'est presque un miracle. Moi, je dirais qu'on a tout de même réussi à acheter des vaccins de façon groupée, à adopter un plan de relance sans précédent, un petit peu aussi comme l'ont fait les États-Unis. Mais c'est presque en dépit de nos règles de fonctionnement. Donc, l'idée de la conférence, c'est de repenser ce fonctionnement et avant de le repenser dans un cercle diplomatique, l'idée, c'est surtout de demander aux citoyens ce qu'ils souhaitent, dans quel domaine ils voudraient qu'il y ait plus ou moins d'Union européenne, qu'est-ce qu'ils en attendent, et donc d'essayer de favoriser une réflexion dans tous les cercles de la société, mais dans toute l'Union européenne, pour pouvoir nourrir ces réflexions avant qu'elles aient lieu.
Et justement, donc, dans quel domaine, quels sont les principaux thèmes sur lesquels les Européennes et les Européens pourront s'exprimer?
Alors, tous les domaines, le lancement de la conférence, il y a une sorte de charte entre les trois institutions pour un peu décrire comment on voudrait que ça ait lieu, parce que c'est quand même très compliqué sur un aussi grand territoire de lancer un processus participatif. On n'a pas exclu de domaine, on a juste donné des indications. Donc, on a donné 8 grands thèmes qui partent un peu tous azimuts. Il y a évidemment les domaines dans lesquels l'Union européenne doit agir le plus, qui sont justement après le Covid, la politique de santé, mais c'est aussi l'environnement, comment faire en sorte de réduire le réchauffement climatique et de mettre en œuvre les accords de Paris de façon ambitieuse, mais aussi toutes les questions sociales, comment on fait pour qu'il y ait une solidarité entre les États membres et une sorte d'harmonisation sociale des conditions de travail dans l'Union européenne, mais aussi tous les enjeux du numérique, tout ce qui concerne les valeurs aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, des États membres dans lesquels ces valeurs fondatrices de l'Union européenne sont plutôt mises à mal. Je pense à la Hongrie et à la Pologne notamment. Les domaines aussi des migrations depuis 2015. Il y a une vraie question de savoir comment on accueille, comment on gère ensemble les différentes vagues de migrants qui peuvent arriver suite à des conflits dans le monde et qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne. Est-ce qu'on est solidaire des états d'entrée des migrants, mais des questions aussi de sécurité. On a tous fait face aussi, avec plus ou moins d'acuité, à des attentats terroristes dans l'Union européenne. Donc comment on gère ça ensemble, mais aussi la politique de l'Union européenne dans le monde. Donc vous voyez, les sujets sont très très vastes. C'est pas seulement le fonctionnement. On demande pas aux citoyens d'être un expert du fonctionnement de l'Union européenne en leur demandant est-ce que vous voulez que on décide à l'unanimité ou à la majorité qualifiée sur tel sujet. Mais en fait, les priorités des citoyens, les domaines dans lesquels ils souhaiteraient qu'il y ait une Union européenne plus solidaire ou plus efficace, vont induire forcément un changement des règles de prise de décision. Donc tous ces thèmes finalement vont être révélateurs des décisions qu'on pourrait prendre sur notre fonctionnement entre les institutions. Ce qu'on voudrait aussi, c'est des propositions très concrètes. Est-ce que on veut un salaire minimum dans l'Union européenne? Est-ce qu'on veut, je sais pas, un Erasmus des fonctionnaires? Ça peut être aussi un certain nombre de catalogues, de mesures pour lesquelles les institutions européennes pourraient accélérer les choses, s'engager à les accélérer, les mettre en œuvre au cours de cette mandature, par exemple.
D'accord, donc l'idée c'est vraiment d'aller même au-delà des compétences actuelles de l'Union européenne, c'est de questionner sur toutes les possibilités.
Tout à fait. Alors il se peut qu'il y ait des sujets sur lesquels les citoyens européens ne savent pas qu'il y a déjà une action européenne, mais s'ils ne le savent pas, c'est peut-être aussi c'est pas seulement qu'elle est mal expliquée, à mon avis c'est peut-être aussi qu'elle n'est pas très efficace. Donc ce qu'on attend c'est aussi du bon sens en fait, hein, de la part des citoyens, et une sorte de pression mise sur les institutions européennes pour qu'elles soient plus lisibles, mais aussi peut-être plus actives dans des domaines prioritaires et qu'elles laissent tomber certaines choses qui ne servent à rien. Donc vraiment tout est ouvert, on va dire.
Et donc, quelles vont être les modalités d'expression justement des citoyennes et des citoyens? Comment est-ce qu'ils peuvent mettre la main à la pâte?
Alors, c'est très compliqué, vous les imaginez bien, de mettre en œuvre cette volonté de consultation et même de participation, de proposition dans un espace aussi grand que l'Union européenne. Alors, il y a plusieurs échelons. Ce qui différencie la consultation là d'une consultation qui pourrait avoir lieu en France, c'est par exemple celle qu'on a toujours en tête, qui est celle de la consultation sur le climat, qui était mise en œuvre dans un cadre plus restreint et avec un sujet plus précis. C'est que nous, on essaye de fonctionner à l'échelon aussi pan-européen. Donc, il va y avoir un certain nombre de panels de citoyens. C'est un peu la même méthode que la Convention citoyenne sur le climat, mais au niveau pan-européen, il va y avoir quatre panels de 200 citoyens tirés au sort qui sont pan-européens et qui vont, eux aussi, de leur côté, plancher sur le sujet. Il y a déjà une plateforme numérique qui permet à tout citoyen, toute organisation civile aussi qui veut organiser une consultation à l'intérieur de son domaine d'action, sur son sujet précis, de pouvoir déposer les propositions qu'il souhaite. Avant de proposer déposer les propositions, il faut organiser aussi des consultations, des événements qui sont plus ou moins ouverts, donc ils peuvent aussi le déposer sur cette plateforme. Et puis, il y aura un échelon national aussi dans chaque État membre qui est un peu laissé libre à l'initiative des associations nationales ou surtout du gouvernement national. Et donc, il y aura aussi un échelon français qui va être mis en œuvre par le gouvernement français, sans doute des consultations régionales, mais pour l'instant, on attend encore des propositions de la part du ministère des Affaires européennes sur ce sujet. Et enfin, je dirais, n'importe quel événement qui voudrait, ou organisation de la société civile qui voudrait organiser un événement peut contacter notre bureau pour avoir des conseils. On peut procurer un peu une assistance à l'organisation d'événements. On a une charte aussi de l'organisation de ces événements. Il ne s'agit pas de conférences, hein, il ne s'agit pas je dirais, de conférences savantes avec un sachant qui s'exprime et qui explique l'Union européenne. Il s'agit vraiment de faire remonter de façon participative des propositions. Donc, on a toute une charte et un kit pour l'organisation qui peut aider à l'organisation de ces événements sur le territoire français.
Et vous l'évoquiez au tout début, donc l'idée c'est de s'inspirer de la parole des citoyennes et des citoyens européens pour arriver à une échelle diplomatique de discussion. Est-ce que justement, on pourrait dire à l'heure de la montée de l'euroscepticisme, il n'y a pas un risque de sonder les citoyennes et citoyens européens?
Alors, je crois qu'il n'y a jamais de risque à sonder les citoyens, surtout sur les questions européennes. C'est justement pour éviter des échecs du type de référendums nationaux sur une réforme des traités qu'on change la méthode et qu'on consulte les citoyens avant de faire des propositions. Donc on a évidemment le sentiment des citoyens tous les 5 ans après les élections européennes qui ont un sens. On a des sondages d'opinion bien sûr, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un dialogue tout à fait direct et en cours de mandat européen, parce que je vous rappelle qu'on est à pratiquement au milieu du mandat parlementaire européen et qu'il y a aussi beaucoup au Parlement européen ce genre de consultations ou de débats. Mais non, l'idée c'est vraiment comment dire, de susciter une réflexion. Je pense que plus on réfléchit sur la difficulté d'opérer au niveau européen et sur la logique qu'on a lorsqu'on adopte des stratégies européennes et qu'on dialogue avec un certain nombre de citoyens ou de députés dans les autres pays européens, plus on réfléchit sur cette action et plus on s'aperçoit finalement que l'Union européenne est nécessaire à certains échelons. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de risque, mais au contraire que des avantages.
Et est-ce que, on a affaire là à un réel moment de démocratie participative à une échelle donc européenne? Et aussi, est-ce que, les institutions, donc les trois, ont mis en place des garanties qui vont les pousser à reprendre justement ces propositions citoyennes? Ou est-ce que, ça peut n'être que du vent, ces propositions?
Alors, c'est toute la question. Je dirais que, je l'ai un peu énoncé, c'est très difficile pour nous d'organiser ce genre de choses au niveau pan-européen. Je pense que cette occasion, de longue mémoire de fonctionnaires européens, je veux dire que c'est la première fois qu'on se donne les moyens vraiment de consulter ou de recueillir la parole des citoyens de façon aussi, je dirais, structurée, avec l'implication des trois institutions européennes et de tous les gouvernements dans l'histoire de l'Union européenne. Hein, si on reprend l'histoire de la réforme des traités, comme je le disais, soit c'était des conventions diplomatiques, soit c'était des conventions. Alors là, c'était pas des diplomates en place, mais des députés européens, nationaux, donc des gens qui sont quand même aux manettes, mais qui ne sont pas dans les institutions européennes. Là, c'est différent. C'est vraiment un temps de recueil de la parole et d'échange avec les citoyens avant même que l'on démarre toute réflexion je dirais, parmi les gens qui sont aux manettes. Donc oui, pour moi, il y a un réel progrès. Est-ce que cette consultation va prendre chez les citoyens? C'est tout l'enjeu. C'est très difficile pour moi de répondre. Alors, il y a un facteur qui fait que oui, on est assez optimiste parce que la crise du Covid nous a vraiment montré les limites du fonctionnement de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et en même temps la nécessité d'une action concertée européenne avec un certain nombre de succès tout de même qu'on rappelle peu dans les médias, mais tout de même La vaccination, même si on considère qu'effectivement il y a eu un peu de retard à l'allumage, est un succès de l'Union européenne. On aurait eu vraiment une dislocation totale de l'Union européenne s'il n'y avait pas eu d'achat groupé. Et puis il y a un certain nombre de conditions qui ont été mises dans l'achat de ces vaccins, qui, si elles semblent que, enfin, si ça a retardé un peu les choses, sont quand même des conditions auxquelles les citoyens attachent de l'importance, notamment sur notamment la protection des données personnelles des gens qui sont vaccinés, et puis la répartition équitable des doses de vaccins pour les États qui n'ont pas de production de vaccins sur leur territoire. Donc, bon, j'ai été un peu longue sur ce sujet, mais c'est un exemple. Je pense qu'il y a alors à la fois ce facteur qui est quand même. On constate aussi dans les sondages que notamment les Français, mais en tout cas les Européens, sont beaucoup plus paradoxalement au courant de ce qu'a fait l'Union européenne l'année dernière que habituellement. Donc, il y a un vrai, je dirais qu'il y a une vraie prise de conscience de l'échelle européenne. Donc ça, c'est le facteur positif. Le facteur négatif, c'est que les priorités, évidemment, des citoyens aujourd'hui, en période de déconfinement, parce que on traverse tous les mêmes choses au même moment, ça va être surtout la relance économique, ça va être aussi sa propre situation personnelle. Et bon, on aura peut-être un certain nombre de personnes vont pas avoir beaucoup de temps à consacrer à des réflexions qui jugeront peut-être inutiles sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc en fait, voilà, ces deux facteurs jouent l'un contre l'autre, mais je pense que le jeu vraiment en vaut la chandelle. Alors, sur la deuxième question qui est quels seront les effets de cette consultation, il est évident que l'on ne peut pas non plus promettre une reprise, pour reprendre un terme que les Français comprennent, sans filtre des propositions qui vont sortir. Mais il y a plusieurs garanties qu'elles seront prises en compte. La première garantie, c'est l'existence d'une conférence, c'est-à-dire un organe composé de députés nationaux, de députés européens, de membres du comité des régions, mais aussi de citoyens, de représentants de la société civile, qui, eux, vont faire un rapport sur tout ce qui a été dit. Donc sur la base de ce qui sera été dit dans les panels, sur la plateforme, mais aussi dans toutes les initiatives nationales qui seront elles-mêmes restituées d'une façon ou d'une autre. Donc cette conférence qui est présidée par un certain nombre de personnes, et notamment par Guy Verhofstadt, qui est un député européen, ancien Premier ministre donc en Belgique. Cette conférence va faire un rapport qu'elle remettra aux trois institutions européennes et le Parlement européen, la Commission européenne et aussi le Conseil, qui est quand même l'institution la plus difficile à atteindre parce que c'est l'ensemble des chefs de gouvernement de l'Union, se sont engagés à reprendre, sans doute pas sans filtre, mais à essayer dans le cadre de leurs compétences de reprendre un certain nombre de propositions. Donc il y aura une restitution un peu obligatoire via ce rapport, via aussi un événement qui aura lieu en mars avec les trois présidents, donc Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le président du Parlement européen et le président du Conseil, qui à l'époque, à ce moment-là, sera présidé par la France, d'avoir un grand événement de restitution avec un dialogue direct avec un certain nombre de citoyens les plus actifs dans cette consultation, et ensuite un processus de soit reprise de certaines propositions, soit tout simplement, pourquoi pas, et ça c'est aussi l'objectif des institutions, un processus de réforme du fonctionnement de l'Union européenne sur certains sujets particuliers. Et y compris même avec une réforme des traités, ce n'est pas quelque chose que l'on exclut d'emblée.
Et enfin, j'aurais une dernière question, il nous reste quelques minutes. Comment, c'est une question difficile aussi, vous en parliez, c'est compliqué de s'assurer déjà de la participation de tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que chaque tranche de population peut être représentée dans cette conférence? Est-ce que les jeunes seront assez présents? Est-ce que les personnes plus âgées, toutes ces catégories, est-ce qu'elles seront vraiment représentées?
Alors, il y a effectivement, faut distinguer la participation de la composition de la conférence qui va faire le rapport sur les propositions. La participation, c'est un petit peu notre rôle aussi. À nous, bureau du Parlement en France, un peu bureau de liaison, d'essayer de faire en sorte que toutes les organisations représentatives de ces intérêts soient sensibilisées et fassent des propositions dans le cadre de la plateforme. Ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Et sur le plan de la conférence elle-même, de sa composition, alors je l'ai un petit peu dit, mais oui, il y a une centaine de représentants de citoyens européens, parmi eux une sorte de représentant obligatoire de la jeunesse, le président du Forum européen de la jeunesse. Il y aura des événements spécifiquement organisé pour les jeunes, notamment une grande rencontre des jeunes européens qui aura lieu à Strasbourg, on espère pour une partie évidemment en présentiel, hein, les 8-9 octobre. Et puis les panels pan-européens aussi sont des citoyens tirés au sort, mais qui doivent être aussi représentatifs de l'ensemble des pans de la société européenne. Donc voilà un petit peu les assurances, les garanties que comment dire, ces propositions seront prises en considération. Mais je pense que la première chose à faire pour toutes les associations qui voudraient défendre leurs idées, parfois des idées concrètes qu'elles peuvent avoir dans leur travail au quotidien. Hein, je pense qu'il ne faut vraiment pas se limiter à des sujets d'actualité aujourd'hui sur le Covid ou la santé, mais bien au contraire, faire remonter toutes ces revendications qu'on a au quotidien dans son travail, je dirais sur l'Europe, et les déposer dans le cadre de la plateforme et d'organiser en amont des événements pour faire remonter la parole de ses propres adhérents. C'est aussi un travail que nous, on va s'attacher à faire avec toutes les associations qui travaillent avec nous, notamment depuis la préparation des élections européennes de 2019.
Alors, le site internet de consultation, vous le trouverez sur le site internet de Radio Évasion. Et vous avez jusqu'à la fin 2021 pour contribuer. Et notre partenaire, l'association Braise Europe Finistère, eh bien, on la retrouvera à la saison prochaine.